C'est bon. Dites-en, garçon, est-ce que le chou farci est à température?
Voilà, monsieur.
Que vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes?
Si, donnerai la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur.
Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça?
Si.
Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Moi, des choux farcis, je ferais même pas une bouchée, moi.
Mais parce que vous savez pas manger, vous allez voir. Ça, donnez-nous de calva. Calva dissout les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Du sec. Hein?
Donnez-moi des choux farcis.
Ah, vous voyez?
Ah oui.
Vous savez s'il a fini son chou?
Je crois bien, oui.
Un bon point pour lui.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster aujourd'hui ces choux farcis. Celui que dévore Gabin dans le Tatoué avec une bonne cuillère de crème fraîche. Celui au saumon fumé qui fut le premier plat que Daniel Mazet-Delpeuch, la cuisinière de l'Élysée, servit à François Mitterrand. Celui de votre grand-mère, celui de votre tante, le mien, le vôtre. Car on a tous quelque chose en nous. Du chou farci. Le chou farci est un de ces rares plats à avoir acquis ce statut de totem, de mythe, d'allégorie, au point d'être devenu l'obsession de pas mal de gourmets. On décrypte la mythologie du chou farci avec nos deux invités. Mon premier est cuisinier, il est au fourneau du Café des Ministères, un des bistrots les plus réjouissants de Paris, mais ça vous commencez à le savoir depuis le temps qu'on vous en parle. C'est Jean Séveigne, bonjour.
Bonjour.
Vous pilotez, Jean, ce bistrot avec votre femme Roxane, qui aurait dû être avec nous à ce micro, mais malheureusement nous sommes limités à 5 dans les studios de France Inter, alors elle s'est trouvée une petite place, Roxane, derrière la vitre de la régie. Vous étiez venu, Jean, il y a quelques mois pour une leçon de bœuf bourguignon et de blanquette de veau. On vous lance un nouveau défi en ce dimanche, nous apporter sur ce plateau le chou farci. Alors, un chou farci parfait dans sa version classique. Et on vous a lancé un autre défi. Imaginez une version de chou farci sans viande. Et vous allez voir, ce n'est pas que pour faire plaisir à nos amis végétariens. C'est une recette qui va peut-être réconcilier tous les mangeurs. Le chou farci, c'est avant tout un chou. Et ce légume est peut-être bien l'un des chouchous de notre ami des jardins, notre pote du potager, c'est Xavier Mathias. Bonjour.
Bonjour.
On est enchanté de vous retrouver à ce micro, Xavier. Depuis pas mal de mois quand même, vous savez planter les choux, mais vous savez aussi en parler?
Ah oui, mais j'aime autant les planter qu'en parler en fait.
Il préfère même les planter, je crois.
Ouais.
C'est ce qu'on va voir dans un instant. Dans les fauteuils des chroniqueurs, je demande aujourd'hui notre libraire gourmande Déborah Dupont et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Bonjour les copains.
Bonjour.
Déborah, alors vous multipliez les boulettes en ce moment. Je fais bien entendu un livre, je fais allusion à un livre très savoureux que vous venez de signer. Car vous n'êtes pas seulement gastronome, libraire, vous êtes aussi auteur de cuisine. Les boulettes de mes rêves aux éditions First. Et on va voir qu'il y a un petit rapport avec le chou farci quand même.
Il y a un petit rapport avec le chou farci, même si là, pour la recette d'aujourd'hui, j'ai choisi une version un peu plus prout.
Pardon? Ah, prout-prout.
Prout-prout.
D'accord, oui, parce qu'on va voir que le chou farci est de toutes les conditions sociales. Jérôme Gagnès, bonjour.
Bonjour.
On s'est déjà dit bonjour, mais...
Oui, on va parler du tressalier aujourd'hui.
Tressalier. Ah,
oui.
Un cépage.
C'est un cépage, exactement.
Parfait, on n'en sait pas plus. On
en saura plus tout à l'heure.
Très bien, résultat des jeux vers 11h30. Une recette de chou farci, un souvenir, un tour de main. Faites-nous partager votre vision du chou farci en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou en cliquant sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Retrouvez nos infos, nos recettes, le podcast de l'émission et le podcast de toutes nos chroniques sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Préparer un chou farci. Alchimie de la cuisson, bonheur de la chaleur, séduction du fondant, gloire de la perfection, sincérité de la tradition, rhétorique de l'invention. Chou ficelé, foyer fermé. La psychologie du chou farci est profonde, sa gastronomie aussi. Le chou farci n'a pas d'origine. La forme de la plante, où chaque feuille enrobe et protège successivement les couches intérieures dans une mise en abîme sans fin, suggère la forme du plat. Plat populaire, pauvre, il s'est échappé des récits des chroniqueurs et des historiographes des rois, ainsi que des lectrices des reines. Il est éternel dans le fond et éternellement changeant dans la forme. Le chou farci n'est pas défini, c'est un plat aux variantes quasi infinies. J'ai toujours pensé que le chou farci était un plat délicieux, nostalgique, consolateur. J'ai mis presque un demi-siècle à comprendre que le chou farci était aussi un mystère, une révélation, une vérité.
Autobiographie dans un chou farci de Allen S. Weiss, dont l'ami Vincent Josse nous lisait un extrait. C'est vous, Déborah Dupont, qui nous avez mis sur la voie de ce livre singulier, paru en 2006.
Oui, c'est un tout petit livre dans la collection Mercure de France. C'est une magnifique série et j'ai trouvé que c'était très adéquat pour aujourd'hui.
Oui, un livre, un récit érudit, drôle, émouvant, émaillé de recettes, de références culturelles, d'expériences gustatives aussi, et signé par l'écrivain américain Allen S. Weiss, qui vit entre la France et New York. Et par ce récit, il se raconte, se dévoile, et il raconte notamment son rapport carrément obsessionnel au chou farci. Preuve, une fois de plus, que le chou farci déchaîne décidément les passions. On le voit d'ailleurs aux réactions de nos auditeurs. Le chou farci, il y a un attachement viscéral à ce plat. Pourquoi le chou farci, à votre avis, fait rêver à ce point, Jean Sévègne?
Je pense que c'est... Pour ma part, en tout cas, c'est quelque chose que me faisait ma maman, avec les restes. Et puis bon, de la région d'où je viens, on a souvent des restes de saucisses.
On parle du Tarn-et-Garonne ?
On parle du Tarn-et-Garonne,
oui. Saucisse de Toulouse, alors ?
Ouais, c'est ça, saucisse de Toulouse. Oui, une saucisse coupée grosse et grasse. ouais, je sais.
Donc, c'est essentiel, ça.
Ouais, non, mais il faut du gras, il faut de la matière, hein, il faut de la matière.
Et elle le faisait comment, votre maman ?
Elle le faisait, on va dire, à la soupe. C'est pour ça, quand je dis, c'est vraiment très rustique. Elle blanchissait ses feuilles de chou qu'elle montait dans une boule à thé de pot-au-feu.
Une boule à thé géante. On imagine quel diamètre alors?
Un bon 7 cm.
D'accord.
Ouais, ça faisait un gros chou, on y mangeait la famille dessus. C'était généreux, voilà. Donc ça, c'était cuit. En fait, ça faisait plusieurs utilisations. On avait le bouillon pour la soupe. Et ensuite, on passait à manger le chou.
C'est ça, un peu de foie gras de temps en temps dans la fête.
Un peu de foie gras, oui, ça arrivait.
Au moment des fêtes.
Ouais, c'était la fête, ouais.
Et alors, décidément, Jean Sévègne, vous n'êtes pas sur ce plateau par hasard, car le chou farci vous a poursuivi, et il y a comme une espèce de résonance avec vos premières années de cuisinier pendant votre apprentissage.
Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, juste après, ce qui est marrant, c'est j'ai fait mon apprentissage en 96. Un restaurant qui s'appelle Le Gendro.
Ah bah bien sûr.
C'est à Saint-Médard-Catus, voilà.
Alexis Pélissou, enfin à l'époque.
Alexis et Martine Pélissou, oui, tout à fait.
Impossible de ne pas se souvenir de ce chef à la moustache conquérante.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Un chef emblématique.
Il a pris sa retraite, hein, d'ailleurs.
Il a pris sa retraite et aujourd'hui c'est Pascal et Sandrine Bardet.
Pascal Bardet.
Qui maintiennent cet établissement au plus, enfin gastronomiquement parlant, c'est énorme ce qu'ils font.
Très très belle adresse, absolument.
Voilà, tout à fait. Donc Alexis faisait un chou, et en faisait deux. En fait, un à la truffe pendant la saison, et un au saumon servi avec une crème de noix. Voilà, toujours de la générosité.
C'est ça. Et vous avez donc pratiqué le chou farci à un âge assez précoce.
Le chou farci, c'est un peu, on va dire, un peu comme une madeleine de Proust. C'est quelque chose qui m'a tout le temps suivi. Et à l'occasion, j'ai à cœur de l'avoir à la carte, surtout en automne, en hiver, où je pensais à pleine saison du chou.
Est-ce que c'est peut-être aussi ça les raisons du succès du chou farci, le fait de ne pas avoir finalement vraiment de conditions sociales? Certes. Ce devait être, et on va voir quel statut social avait justement le chou, mais au départ c'est un plat paysan, comme beaucoup de plats paysans, ils se sont un peu élevés socialement entre guillemets, peut-être accaparés justement par la bourgeoisie, lyonnaise, bordelaise, parisienne, ça veut dire que le chou farci, on l'a à la fois dans toutes les régions de France, comme vraiment un plat rustique et paysan, un plat finalement assez pauvre, où on mettait des restes à l'intérieur, dans la farce, et en même temps c'est un plat qui a acquis ses lettres de noblesse, qu'on trouve beaucoup dans les traités de cuisine bourgeoise du 19e et 20e siècle. C'est aussi ça qui fait que le chou farci est finalement un plat universel.
C'est ça, je pense en fait on peut se l'approprier. Ça fait partie déjà le produit à la base, c'est un produit je pense on nous en dira plus tout le monde avait des choux. C'était quelque chose de très populaire et ensuite oui, on peut l'accommoder avec ses restes, on peut l'accommoder avec tant de choses et se l'approprier.
Alors Xavier Mathias, justement le chou, on en a une superbe collection, vous avez apporté carrément pas la totalité de la famille des crucifères ou des brassicacées.
Ouais, c'est la même chose, on peut dire les deux.
Mais quelques échantillons quand même.
Oui, en fait les choux c'est une des espèces les plus polymorphes qu'on a au potager. Tous les organes ont été atrophiés, que ce soit la fleur, la tige, etc. Ça va du chou rave au chou fleur, en passant par le chou brocoli, avec bien sûr les choux paumés, les choux à feuilles, etc. Donc on c'est infini comme variation.
Ouais.
Et effectivement, on parle souvent un peu improprement de légumes oubliés, légumes anciens, etc. Ce serait assez bon de repréciser un petit peu quelle est la réalité de tout ça. Ce qui est certain, c'est que voilà, les choux, ils étaient la base de l'alimentation, clairement. Après, c'est aussi pour ça, moi je pense qu'on retrouve ce chou farci partout, parce qu'il était aussi, il offrait la possibilité de devenir signe ostentatoire de richesse. C'est-à-dire, avec la farce qu'on met à l'intérieur, on montre son niveau social.
Alors, on montre son niveau social et en même temps, pardon de vous couper Xavier, on le cache, c'est-à-dire qu'il y a l'effet pochette surprise. Non mais il y a le côté a priori, on a ce chou un peu effectivement rustique en apparence,
ouais.
Et puis dès qu'on ouvre, il y a le cadeau à l'intérieur, quand on a déballé son paquet cadeau, justement.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc, ces choux, il faut vraiment se les figurer comme une base de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les plantes à poterbe, c'est-à-dire ce qu'on fait les cuire plantes, au pot.
Les plantes à
poterbe. Ouais. Le poterbe, c'était là où on faisait cuire un peu indistinctement, les bêtes à cardes, etc. Enfin, toutes les plantes qu'on met au pot. En fait, avec un petit peu de viande, si possible, mais c'était pas du tout obligé. Ça, c'était réservé un petit peu aux plus riches. Donc voilà, notre chou, lui, il a, au fil du temps, il a perdu un petit peu sa place très prépondérante qu'il pouvait avoir. Et si on regarde maintenant ce qui se passe, c'est un peu les choux de luxe, les choux un peu hype, qui continuent à bien perdurer. J'entends par là chou-fleur. Les choux brocolis, qui sont les deux choux qui tirent bien leur épingle du jeu, qui sont des choux un peu de luxe, ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de temps, et si on doit peser la récolte au mètre carré, c'est pas si énorme. Quand on pense aux choux de Saint-Saëns, par exemple de Gérard Mallet, qu'il a retrouvé et recultivé, donc ces choux énormes qu'on avait en Normandie, dont la tête pouvait peser 10 kilos, donc vraiment idéal pour les grandes tablées, soit des moissons, soit des foins, etc., ben voilà, nos choux, on n'a pas envie de manger du chou pendant une semaine.
C'est ça, puis le chou rebute un peu. Allez, je vais trahir un secret que m'a confié notre réalisatrice Laurent Thomas, qui est pourtant une grande pro de la cuisine familiale. Ben, le chou, elle s'en méfie un peu. Le chou farci, elle le pratique pas tellement à la maison, notamment pour des raisons d'odeur.
Ben oui, j'aurais pas me montrer grossier, mais le chou, ça sent le chou, et heureusement. Ça sentirait autre chose, ça poserait problème. Donc voilà, il faut qu'on accepte, voilà, de savoir que notre alimentation a une odeur. Alors effectivement, dans les choux, il y a des composés soufrés. Effectivement. Et ça sent le chou quand on cuisine. Alors moi, j'adore, quand je rentre dans la maison, dans la cuisine, sentir toutes ces odeurs différentes. Oui, parfois, ça peut être le chou. Parfois, ça peut être les lentilles roses ou curry. Ça peut être mille choses, en fait.
C'est ça.
C'est ça qui fait du bien. C'est ça qui met l'eau à la bouche, véritablement.
Dans un instant, on va justement plonger carrément dans la cocotte en fonte, car Jean Séveigne nous a apporté une version de chou traditionnel, mais également une version de chou végétal. On va déguster ça pour de vrai, sans faire semblant. Le couvert est dressé sur le plateau dont on va déguster. L'émission est réalisée par Laurent Thomas avec Florent Bujon à la technique, Margot Page et Marie Mougin à la préparation. On va rentrer dans le vif du sujet avec Jean Séveigne, mais juste avant, je vous propose une première recette en chanson. C'est une petite surprise. Le chou farci, mitonné par les Charlots, interprété en 1975 par Eddie Mitchell dans un enregistrement que nous a retrouvé Djoubaka, notre programmateur musical. Bon appétit sur France Inter.
Un matin, je le sais bien, ça va nous arriver. Nous irons main dans la main, tous les deux faire le marché.
Nous achèterons du chou, de la farce et des oignons. Et si la chance est avec nous, nous trouverons un beau citron.
Pour faire du chou farci, comme tout de l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on aura fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. Dans notre grande cocotte,
sur un lit de lard gras. Nous grillerons des carottes et des tomates, premier choix.
Puis nous bouillerons le chou à mi-hauteur dans du bouillon. Et nous ferons cuire à feu doux en surveillant bien la cuisson
de notre chou farci. Comme tout de l'aime, avec un bon hachis, du vrai hachis qu'on a fait nous-mêmes. Et vers 8h30, nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou farci. I'm calling you.
C'est le hachis, hein. Ça fait, on peut enchaîner.
Enfin, ça va être à toi, ma puce.
Et vers 8h30,
nous nous mettrons dans notre lit pour y déguster, ma chérie, les joies du chou.
C'est pas extraordinaire. C'était un enregistrement pour Europe 1. En 1975, Eddie Mitchell et Les Charlots chantant le chou farci, et ça finit par « À la crème ». Est-ce qu'on est d'accord pour la crème fraîche avec le chou farci, comme d'ailleurs Jean Gabin dans...
Oh, le tatoué.
C'est ça, il demande de la crème fraîche pour accompagner la dégustation de son chou farci.
Ouais, alors pour ma part, je vais être curieux de goûter, j'ai jamais goûté sauf avec le chou farci au saumon d'Alexis Pélissou, mais pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, ouais. Ça demande... tout va dépendre quand même de la farce. Comme on disait, la farce, chacun peut se l'approprier. Et pourquoi pas de la crème, oui.
Là, il y a un fumet légèrement fumé, c'est le cas de le dire. Enfin, des parfums fumés qui nous titillent les narines, puisque le chou farci de Jean Séveigne a été découpé et servi dans nos assiettes en carton. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, on va rentrer dans le détail de la recette. Votre recette a déjà eu beaucoup de succès sur votre compte Instagram, puisque vous l'avez, on va pas dire modifié, mais vous l'avez vraiment mise au point pour tout le monde. Pendant le premier confinement, s'il fallait présenter votre version du chou farci sans rentrer encore vraiment dans le détail, c'est un chou farci qui est un vrai chou farci de restaurateur, très beau et en même temps finalement assez familial aussi.
Ouais, alors là vous avez vraiment, on a voulu faire un peu le tour des régions aussi. C'est ce que je trouve nous permet surtout. On est à Paris et là je trouvais qu'on pouvait mettre à l'avant la saucisse de Morteau. Mm-hmm. La saucisse, elle vient de, donc il y a de la saucisse de Morteau. La chair à saucisse, elle vient de chez Pierre Matteron. Mm-hmm. Vous avez du chou de Pontoise.
Et
voilà,
on va en parler.
On est local. Voilà les herbes. Vous avez des herbes de chez Didier Pille. Vous avez voilà. C'est ce que ça permettait. Mais le fumé, alors j'adore le fumé que procure la saucisse de Morteau avec le chou.
Extraordinaire.
Voilà.
Et d'ailleurs, une potée au chou avec une saucisse de Morteau, c'est fabuleux. Et le bouillon?
Et surtout, ouais, voilà. Là, il y a, comme je vous disais, ça permet de faire un très bon bouillon. Vous allez cuire votre saucisse de Morteau. Vous allez pré-cuire votre saucisse de Morteau dans lequel vous allez pocher votre chou. Faut pas oublier un petit vermicelle avant d'attaquer le chou. Vous voyez, hop, vous cuisez un peu de vermicelle dans votre bouillon. Mm-mm. Ça permet tout ça, quoi. Et tout en osmose, bien sûr.
Et ben, on va en parler évidemment. Alors là, c'est encore un peu flou, les différentes étapes, mais on va rentrer dans le détail. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que c'est un chou œcuménique, puisqu'il y a de la saucisse de Morteau, il y a de la saucisse de Toulouse de votre pays, et il y a effectivement un chou qui a la réputation d'être francilien, qui porte d'ailleurs le nom d'une commune du nord de Paris, du département de l'Oise, c'est Pontoise. Le chou de Pontoise fait son retour, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Xavier Mathias, sachant qu'on range ce chou de Pontoise dans la catégorie des choux frisés?
Oui, c'est ça, c'est un chou de Milan en fait. Hein.
Un chou de Milan.
Un chou de Milan de Pontoise, on va dire. Voilà. C'est...
Alors racontez-nous.
Ça voyage,
c'est super, un peu géographiquement.
Une
directe sur le Pontoise.
Et en fait, on a donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très polymorphe les choux. Et il y a beaucoup de sous-espèces, donc on a celle à feuilles lisses et on a celle à feuilles frisées ou gaufrées. Et donc le chou de Pontoise, qui rentre dans cette catégorie des choux de Milan à feuilles gaufrés. En général, c'est on les préférait parce qu'ils résistent mieux au froid. Ça, c'est une caractéristique qu'on connaît plus trop. D'ailleurs, j'en profite pour dire un petit détail sur les choux. Ce qui est important à savoir, c'est que leur antigel, pour pas geler, en fait, c'est que, en schématisant, ils évacuent leur eau et concentrent leur sucre. Donc, quand on dit que les choux de Bruxelles, par exemple, ou que les fameux choux kale, entre guillemets, kale n'étant pas une variété, mais on va dire un type, vous savez, ces choux frisés qu'on voit maintenant avec bonheur, hein, arriver sur les étals, en fait, effectivement, il vaut mieux les ramasser après la gelée. Leur texture et leur saveur changent. Donc, et le Milan de Pontoise, c'est le cas. Milan de Pontoise, ça me permet de, aussi de rendre un petit peu hommage à Laurent Berruyer, qui est vraiment un super producteur. Et qui m'a
maraîcher à Neuville-sur-Oise, on est vraiment aux portes de Pontoise. Hein.
Voilà, et c'est lui qui m'avait expliqué que ce qu'on dit dans la région, c'est qu'il faut se méfier à l'embâcle de la Seine si jamais la Seine prend en glace, là les choux peuvent geler. Mais sinon, tant qu'il n'y a pas de risque d'embâcle, effectivement, ils n'ont pas peur que leur chou gèle. Donc ce
chou, vous êtes même en train de nous dire que plus un chou a froid, plus il est sucré.
Plus il va sucrer.
Jusqu'à un certain point.
Voilà. La tentation serait de le mettre au congélateur et ça marche pas du tout, en fait, parce que, en fait, c'est la descente progressive des températures qui va faire que tranquillement, lui, il va modifier sa composition.
Et ça veut dire qu'il y a une texture aussi moins fibreuse, du coup?
Alors, moi, je les trouve. Alors, c'est
plus tendre.
Il y a une part de subjectif, hein, toujours là-dedans. Mais pour moi, clairement, ils sont plus tendres et ils sont plus sucrés. On a essayé, hein, au Mali, de faire du chou kale, entre guillemets, toujours un guillemet à kale. Je vous assure qu'avec les températures qu'il y a là-bas et là, l'absence totale de froid, les feuilles, elles sont vraiment raides, hein, elles sont vraiment dures.
D'accord, donc le chou aime bien le froid. Alors justement, chou frisé à la base du chou farci, là, on va s'entendre là-dessus. Par parenthèse, vous utilisez les choux de Pontoise de Laurent Berruyer.
Oui, tout à fait.
Jean Sévène.
Tout à fait, tu utilises les choux de Laurent.
Très bien. Alors, on rentre dans le détail, on y va ?
On y va.
On met son tablier. C'est parti.
Donc du coup, la première étape, c'est de se débarrasser pour le chou de ses premières feuilles qui en général le protègent et qui sont très dures. Mais on va quand même les garder pour faire le bouillon.
D'accord.
Bien sûr, on va rien jeter, on va le garder pour faire le bouillon. La deuxième série de feuilles, on va les blanchir. On va les blanchir et ça nous servira à faire le montage de notre chou. Mmh. Et l'intérieur du chou, on va le faire suer. D'accord ? On va le faire étuver plutôt même.
Donc, on enlève les premières feuilles, on récupère le cœur. Mais
on récupère.
Combien on garde de feuilles à peu près en enlevant les premières qui sont vraiment ligneuses ?
Vous en gardez 8. Les premières qui sont ligneuses, très dures, ça vous en servez pour faire le bouillon.
C'est ça.
Ensuite, on va dire la deuxième rangée de feuilles va nous servir à faire le montage de notre chou.
Ça fait combien de feuilles à peu près ? Ça en fait 8, c'est ça ?
On va dire environ. Ça va être selon la taille de votre chou. Et ensuite, l'intérieur, on va l'émincer et on va le faire suer.
C'est ça.
Donc là, il faut laisser libre cours, un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu selon les goûts. Et on le fait par contre bien étuver. Ça va être donc pour le chou. Pour la farce, on va prendre des restes de pain qu'on va faire imbiber un peu de crème, un peu de lait, selon
deux tiers de lait, un tiers de crème, c'est ça? Là, il y en a 100 grammes de lait.
Ouais, on est généreux.
10 centilitres.
Ouais.
On est, mais 50 grammes de crème.
Ouais. Après, franchement, selon.
Donc cette farce.
Plutôt de la crème. Donc.
Ouais. On est généreux. Et donc vous allez laisser imbiber dedans, vous allez rajouter vos œufs, vos herbes. Vous commencez bien à mélanger l'ensemble. Pour ceux qui aiment l'ail, toujours un peu d'ail. Vous pouvez relever avec un peu d'ail.
Les herbes, vous êtes sur le persil.
Ouais, plutôt persil. En cette saison, on n'est pas non plus très riche, mais on va dire plutôt persil.
Ah, il n'a pas oublié le piment d'Espelette aussi, j'en sais.
Oui, non mais faut le. C'est une farce, mais je pense dans tous les traités que j'ai pu lire, c'est toujours quand même bien relevé.
Très bien.
Voilà, bien relevé. Là, vous commencez à le travailler. Vous allez mettre votre saucisse. C'est le plus simple. Vous pouvez faire du hachis si vous voulez aussi, mais le plus simple, ça reste quand même de la chair à saucisse. Prenez une bonne chair à saucisse.
Voilà.
Taillée grosse. Voilà. Vous pouvez rajouter un peu de lard aussi.
Oui.
Alors,
On va voyager sur notre...
Alors,
sur...
quand vous parlez de saucisse, pardon, parce qu'il y a saucisse de Toulouse, donc là, c'est une saucisse fraîche. Tout à fait. Et il y a la morteau.
Oui.
Qui est cuite.
Oui, voilà. Là, pour cette version-là, je trouve à la maison, pour avoir un goût de fumée, on a fait cuire dans ce même, dans le bouillon, dans lequel on a mis à cuire nos feuilles de choux. On a poché une quarantaine de minutes à eau frémissante de la saucisse de morteau.
Très bien.
Et ensuite, on va la détailler en dés, et on va l'ajouter à notre farce.
Très bien. Sachant que la saucisse fraîche de Toulouse, par exemple, ou la bonne chair à saucisse, elle est revenue.
Non, elle est, on ne la fait pas du tout.
On l'a fait accrue, c'est ça.
Accrue, ouais, tout.
Très bien.
Dans la farce. Et à tout ça, vous allez ajouter votre cœur de chou qui a étuvé. Et là, vous avez votre farce.
Ouais,
donc,
bien
vous avez vos feuilles blanchies, votre farce. Et bien là, à partir de maintenant, vous allez pouvoir attaquer votre montage.
Voilà. Et le montage, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce montage, il se fait, on va dire, dans un récipient ou un bol, ça dépend un peu de la taille.
Alors, on va dire, il y a trois techniques. Moi, c'est vrai que souvent, je partage pour à la maison la plus facile. On va utiliser un bol, une assiette creuse. Vous pouvez la tapisser de papier film, par exemple, ou de crépine. Mais crépine, je sais que c'est toujours délicat à trouver. Mais vous la tapissez de papier film. Et là, vous commencez, vous mettez vos feuilles de chou et vous reconstituez un chou en alternant feuilles de chou et farce.
Vous faites un
peu. Vous refermez votre papier film, vous le serrez bien. Vous faites un nœud, vous le piquez un peu de partout. Et après, vous le pochez. C'est important de le piquer pour qu'il y ait osmose entre votre chou et votre bouillon.
C'est ça,
c'est
le bouillon.
C'est important pour votre chou. Et pour votre bouillon.
Donc le bouillon qui a pris un peu, qui a capté légèrement les saveurs fumées de la saucisse de morteau. Il y a également les premières feuilles revêches de ce chou, alors en l'occurrence chou de pontoise. Tout ça fait un bouillon assez aromatique. Et c'est dans ce bouillon que ce chou reconstitué, qui forme en fait une espèce de sphère, de boule, refermée par un film étirable, va cuire pendant...
Pendant une heure et demie. Mais c'est ce qu'on disait avec Xavier, c'est cette cuisine de potée, c'est-à-dire que ça va cuire, mais vous pouvez le laisser, il se passera rien, il arrivera rien de grave. Vous voyez, ça va cuire une heure et demie, mais ça peut rester comme ça au coin du feu tranquillement.
C'est ça, oublié au coin du feu.
Un peu.
On n'en voudra à personne.
Non.
Ça peut même lui faire du bien.
Oui, moi je trouve.
Parce que... Ça confie un peu.
Oui, il faut qu'il y ait cette osmose qui se passe complètement.
Et dites-moi une chose, évidemment ce chou farci, il poche dans ce bouillon, et après il y a un braisage, parce que là on obtient
tout
vraiment
à fait. Tout à fait.
Mais vous pouvez une couleur de mijoté.
Vous pouvez le manger directement à la sortie, mais moi j'aime beaucoup ce côté caramélisé. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on le sort du bouillon, je le mets dans un plat, et avec le bouillon... Et je rajoute quelques petits légumes. Je vais venir le braiser. Et là, on va avoir une caramélisation qui se passe.
Et comment vous le braisez alors ? Cocotte ?
Ouais, voilà, cocotte. Je l'enlève, je le mets dans la cocotte.
On enlève le film étirable, hein ?
Ah oui, pardon, oui, bien sûr.
Faut pas oublier. Ouais. Une très mauvaise surprise après.
Mais après, voilà, il y avait cette technique aussi avec la crépine. Ça fait vraiment un très très joli chou aussi avec la crépine. C'est Ou sûr. Alors, tout simplement, vous pouvez aussi ficeler tout simplement. Tapisser votre bol des feuilles et le ficeler aussi, vous pouvez, il y a aussi cette technique.
C'est Jean, parce que c'est bien, on n'utilise pas de plastique.
Le fond de le braisage que vous utilisez, ensuite vous le faites réduire et ça vous donne un jus un petit peu, pas une demi-glace, mais disons un jus un peu sirupeux malgré tout.
Tout à fait. Ce jus va venir, quand vous allez mouiller votre chou en braisant, il va venir, on est en réduction, du coup on est en concentration, voilà.
C'est parce que c'est ça qui va, ce qui est pas véritablement une sauce puisque c'est un jus réduit, elle est pas liée.
C'est le bouillon qui est réduit.
C'est le bouillon
dans lequel a poché
le fond de braisage.
Ouais. Oui, absolument. Et vous y rajoutez quand même pour une garniture aromatique en plus du bouillon.
Oui.
Ah, vous trichez, c'est pour ça.
Trouve... Non, mais
carottes.
Oui, carottes, oignons, céleri et un peu de poitrine.
Que nos auditeurs soient rassurés, ceux qui ont envie de se lancer dans le défi d'un chou farci. Et franchement, le rapport effort-réconfort est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas finalement, effectivement, il faut du temps, notamment de cuisson, mais techniquement, c'est loin d'être un gros défi en fait.
C'est,
ça va.
Ouais, voilà. Entre guillemets, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de technique. C'est quelque chose de très abordable, assez abordable à tous les niveaux. Voilà.
Moi, j'ai jamais osé, je dois reconnaître, j'adore ça.
Vous allez vous lancer, Jérôme Gagnez, et vous nous en donnerez des nouvelles, et on rassure aussi nos auditeurs avec votre recette qui est vraiment racontée pas à pas dans les détails sur franceinter.fr à la page On va déguster la recette signée Jean Seven. C'est proprement délicieux.
Merci.
On est dans des feuilles sucrées, fondantes, des goûts très concentrés, un moelleux fabuleux.
Ouais. Alors, peut-être, On y reviendra après, mais ça me fait penser, quand on dit feuilles sucrées, il y a des desserts qui se font avec du chou. Et notamment Jacques Maximin. Il avait fait une recette avec des fruits rouges, des pommes, des poires. Maintenant que vous en parlez, ça me fait penser à ça. Et il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Je trouve que c'est chouette, cette recette sucrée avec le chou.
Il
ne
faut pas qu'on oublie non plus Jacques Maximin.
Oh, mais non, mais personne ne peut l'oublier.
Grand maître et meilleur ouvrier de France et grand maître de la technique culinaire. Juste, est-ce que vous retrouvez la sensation chou dans ce chou farci?
Ah, mais moi, je trouve ça incroyable.
Vous ne trouvez pas que la viande est en trop, j'espère,
Xavier? Non. Et puis, alors, ça me faisait rêver quand on disait tout à l'heure, bah voilà, on peut laisser aussi au coin du feu, on peut laisser. Et là, on s'aperçoit que le chou, vraiment, il parfume. Voilà. Et incroyable aussi ce côté-là, comment les sucres peuvent ressortir. C'est tout à fait étonnant, ça caramélise. C'est incroyable. Exactement. Le chou, il est présent, mais il domine pas.
Et puis, il pardonne, en fait. C'est ça aussi, c'est qu'il pardonne une cuisson un peu trop longue, il reste très fondant. C'est précieux, mine de rien, quand on fait une cuisine familiale, on n'a pas forcément, on n'est pas le nez sur sa cocotte à la minute près. C'est très précieux.
Jérôme Gagnez a la parole, il la garde.
On va déguster sur France Inter.
Mais qu'est-ce qu'on voit avec ça?
Alors les amis, je voulais vous parler pour plusieurs raisons du tressalier qui me fait tressaillir de joie.
Oh là là, elle est facile, hein.
C'est magnifique, vous observerez la grande poésie du début de cette chronique. Et donc, je voulais vous parler de ce vin parce que pour plusieurs raisons. D'abord,
de ce cépage. Enfin.
De ce cépage, de cette appellation, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime beaucoup cette appellation. C'est une appellation qui fait partie de ce qu'on appelle la Loire volcanique. La Loire volcanique, nous en parlâmes déjà à cette antenne, pour évoquer les vignobles du Forez, les vignobles d'Auvergne, les vignobles de Côte-Rouennaise, les vignobles de Saint-Pourçain, qui ont en commun, schématiquement, pour faire vite, le Gamay et le Granit. Et donc, ce sont ces vignobles du Massif Central qui sont passionnants. On en a déjà évoqué certain nombre de vins, notamment lors de notre émission qui fut enregistrée à Saint-Étienne en février 2018.
Je m'en souviens très bien. J'étais de ce voyage.
Exactement. Et donc voilà. Donc je voulais vous parler de ça parce que j'aime beaucoup ce cépage tressalier et puis parce que je dois reconnaître que malgré des recherches, enfin j'ai essayé de comprendre et en fait j'arrive pas à comprendre. Mais il y a un truc qui m'agace prodigieusement dans cette appellation, c'est que ils ont un cépage qui s'appelle le tressalier, qui est un cépage...
On parle bien d'un cépage blanc.
Oui, c'est un cépage blanc, vous avez raison, c'est un cépage blanc, le tressalier, qu'on retrouve aussi sous le nom de Sassy dans Lyon. Il est du reste originaire de Lyon, mais il s'est implanté, il a pris racine dans l'Allier, à Saint-Pourçain. Alors, fut une époque où il était plutôt assez vert, pas forcément parfaitement à maturité, et donc on y ajoutait du chardonnay qui apportait rondeur et gras. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, c'est la seule appellation dans laquelle on trouve une aussi grande quantité de tressaliers, même si le chardonnay est toujours majoritaire. Mais donc, c'est un cépage qui est identitaire de cette appellation. Et pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, malgré les explications qu'on m'a données, qui ne m'ont donc pas du tout convaincu, les vignerons qui voudraient faire un vin 100% tressalier en appellation Saint-Pourçain sont obligés de déclasser leur vin en IGP Loire ou en vin de France. Or, Saint-Pourçain, ça n'est pas faire insulte à cette appellation, n'a pas tout à fait la réputation de Vaune-Romanée, Meursault ou Pauillac. Et donc, il faut que cette appellation, on parle d'elle parce qu'elle mérite réellement qu'on parle d'elle. Il y a des très jolis vins, il y a des beaux terroirs, il y a des vignerons passionnés. Tout est réuni pour faire un succès. Et les vignerons dont on parle peut-être un peu plus que les autres, ceux qui veulent faire des vins à base de 100% tressalier, eh bien le résultat de cette législation qui me paraît un peu stupide, fait qu'on parle d'eux en disant vin de France et non plus 1%.
Donc, petit appel à l'appellation
100%. Tout gagné, bravo, c'est brillant.
Vive le tressalier.
Bref, parlons maintenant plus précisément du domaine des Bérioles, qui nous propose cette cuvée qui s'appelle Trésaille 2019. C'est à 13€ au domaine. C'est un pur tressalier. Vous aurez remarqué, quand vous goûtez le vin, ce caractère très finement tanisé qui habituellement est plutôt méridional, alors que là, eh bien, ça participe de cette note végétale fine et élégante de ce vin. J'ai pensé à ce vin en pensant à votre chou farci végétal, végétarien, cher Jean. Et en l'occurrence, je me suis dit que ce petit côté tanisé, ce petit côté végétal, apporterait quelque chose. C'est vif, c'est un vin qui est joyeux, c'est à la fois un vin de soif, et votre serviteur qui vous parle à l'instant, j'ai encore des 2011, c'est un vin qui vieillit remarquablement bien, ça vaut 13 €. Donc vraiment, c'est un très joli vin. Je complète ce petit couplet sur Saint-Pourçain en parlant de la cuvée Les Grandes Brières, qui est un gamay sur granit. On a déjà parlé à cette antenne des gamay sur granit. C'est un gamay réjouissant, c'est un gamay gourmand, c'est un gamay juteux,
c'est un
gamay pulpeux, c'est un gamay qu'on a envie de boire à la régalade, modération étant malheureusement encore atteinte du Covid. Et donc elle ne nous accompagne pas aujourd'hui, mais on pense très fort à elle. Et donc on boit ce gamay des Grandes Brières avec une grande joie, parce que il y a de la chair, il y a de la gourmandise, il y a de la structure. C'est un vin qu'on boit très très facilement aujourd'hui. Je vais vous le servir dans quelques instants. Et à la fois, c'est un vin qui sera capable de vieillir. J'ai encore des 2013 ou des 2012 qui sont admirables. Vive le domaine des Bérioles, vive le Saint-Pourçain.
Dont on parle beaucoup avec des jeunes.
Oui.
À la conduite de ce domaine.
Exactement. Le domaine des Bérioles, c'est Jean Técèdre avec sa sœur Sophie et son beau-frère Jérôme Roux. Et d'ailleurs, j'ajoute, il faut aller les voir parce que les vins sont vraiment remarquables. Et j'ajoute qu'ils ont monté un truc assez génial qui s'appelle Balade en Bérioles. Ce sont des balades thématiques autour de la viticulture et du patrimoine. Et véritablement, c'est vrai, ils ont fait un boulot de dingue et c'est absolument génial en œnotourisme. C'est vraiment un truc génial. Ce domaine est une petite pépite, c'est une petite merveille. Il faut aller les voir. Les vins sont merveilleux. Je termine ma chronique très rapidement avec un vin dont Roxane m'a parlé et dont Roxane voulait nous parler.
On resitue Roxane, évidemment.
Roxane, c'est la femme de Jean Sévègne. Roxane, c'est l'autre...
La femme de Jean Sévègne, grande sommelière
évidemment,
du Café des Ministères.
Et c'est l'autre partie du Café des Ministères, c'est la partie salle et sommellerie. Et Roxane m'a dit, il faut absolument que l'on parle du Buget 2016, la cuvée Mataret en Mondeuse de chez Thierry Tissot.
Ah.
Alors je vous en parle avec joie. Je viens d'en boire une grande lampée. C'est une mondeuse qui est en partie éraflée seulement. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de grappe. Donc, elle a ce croquant. Elle a ce tanin qui est un tout petit peu accrocheur. Elle a cette vivacité, ce caractère un peu myrtille typique des mondeuses. Je rappelle que la mondeuse, c'est le papa ou la maman. On ne sait pas très bien, on n'a pas regardé dans la culotte, mais c'est le papa ou la maman de la Syrah. Et c'est un cépage savoyard aussi de l'Ain, dans le Buget, parce que le Buget c'est dans l'Ain. Et donc ça fait merveille avec ce chou farci ça apporte de la fraîcheur, ça apporte un peu de niaque. C'est un très joli vin, c'est Thierry Tissot, ça s'appelle le domaine Thierry Tissot, Buget, cuvée Mataret 2016, et c'est à 12 € au domaine.
Est-ce qu'il faut choisir une couleur lorsque l'on déguste
qu'on
veut l'accompagner d'un vin?
Non, parce que vous voyez, le tressalier qu'on a dégusté fonctionnait très bien sur la farce, et le rouge aussi. Non, c'est vraiment un plat qui accepte plein de couleurs.
Plein de couleurs, à boire, bien entendu, avec modération.
Bien sûr.
Les facéties du chou farci que l'on explore avec nos deux invités du jour, Jean Sévène au fourneau du Café des Ministères et Xavier Mathias, notre pote du potager, le chou farci. On va voir qu'il y en a bien des versions dans un instant, même une version végétarienne.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Déborah Dupont, beaucoup de réactions se bousculent sur notre mail et depuis notre appli de France Inter.
Je croule sous les réactions, je n'ai jamais vu ça en 5 ans d'émission. C'est-à-dire que là, tout le monde connaît le chou farci, tout le monde a sa version. On me parle beaucoup du malfouf, qui serait une version syrienne ou levantine.
Ah, oui. Ouais.
Feuilles de chou roulées autour d'une farce de riz, viande, menthe séchée, épices douces, cuites dans un bouillon de tomates, citron, mélasse de grenade.
Incroyable.
Donc là, ça donne vraiment envie. J'ai aussi des réactions notamment de Sandrine à Vic-sur-Serre dans le Cantal qui m'explique que elle, c'est du lard dans une cocotte et en fait le chou est cuit directement dans la cocotte et non pas poché dans le bouillon. J'ai plusieurs réactions en ce sens. Donc de cuisson, effectivement, on tapisse de lard, ce qui permet sans doute de conserver le moelleux et de pas avoir un chou sec. Et j'ai aussi une question, alors là ce sera plus pour Xavier. On me parle des bricolins. Alors Xavier, qu'est-ce que c'est?
C'est joli comme tout. Ce qu'on appelle les grenons aussi, ça dépend des régions. En fait, c'est la arme florale. Je vous en ai amené quelques-unes. C'est des asperges, ni plus ni moins.
Donc c'est une espèce, enfin là on peut parler d'une tige ou...
Voilà, c'est la tige, c'est la arme florale. Alors souvent c'était sur les choux fourragés. Imaginez, on les récolte tous les pour les animaux. Et puis, au printemps, ils font leurs fleurs, ils montent à graines. Et cette ampe florale, quand la fleur commence juste à pointer, en fait, c'est très très bon. Et c'est ce qu'on appelle... on est vraiment dans quelque chose qui est populaire, qui est d'origine paysanne, et ça va changer vraiment en fonction des régions. Ça peut être bricolin, moi j'aime beaucoup ce mot-là, mais ça peut être grenon aussi. Et dans des régions comme la région angevine, sur le marché d'Angers, vous voyez encore des gens qui, à la saison, amènent des piles de grenons de choux. Ce sont les ampes florales qu'ils ont cassées après avoir récolté les choux à lapin ou choux à vache.
Xavier, ça se mange et ça se cuisine comme une asperge.
Comme une asperge.
Ça se saute.
Oui, c'est ça. Voilà, on peut les faire sauter, on peut les faire cuisson vapeur. C'est très très bon. On peut même les émincer en petits morceaux crus dans une salade. C'est vraiment très bon. Et il y a que tout le côté crucifère adouci qui est là, qui est vraiment hyper agréable. Donc voilà, ça c'est un petit mot pour les jardiniers. Si vos choux montent à graines, vos choux chinois particulièrement, ou même vos moutardes montent
à graines, bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. En fait, ça va être très bon.
Et d'ailleurs, cette émission, on le sent, réveille les patriotismes régionaux. Parce qu'en France, il est effectivement, on le voit, pratiqué dans toutes les régions, ce chou farci. Les Auvergnats pensent évidemment qu'il est Auvergnat, hein, n'est-ce pas, Déborah? Les Niçois brandissent leur capoun, des feuilles de chou vert farcies de viande, de légumes et de riz. Les Provençaux pratiquent le loufassoum, un chou farci cuit dans un filet.
Oui, j'ai effectivement blanchir le chou entier, l'ouvrir, retirer le centre tiède, l'ajouter à la farce riche en légumes, mettre la farce entre les feuilles, tapoter, il tient tout seul. Je le préfère en four qu'en cocotte, et ça c'est le témoignage de Ariane ou Ariane, je ne sais pas, sur internet, effectivement, pour le loufassoum.
Et les Bretons revendiquent, brandissent la bardate. Encore une autre version de chou farci. Des auditeurs nous alertent également sur la farce de Jean Sévène, sachant que ce chou est absolument parfait. On dit pas ça pour vous faire plaisir, mais le niveau à la fois technique et de réconfort que procure ce chou farci est éblouissant. Peut-on rajouter des châtaignes? Peut-on rajouter des champignons? Peut-on rajouter du céleri, tiens, à la garniture aromatique?
Mais bien sûr, en fait, c'est comme on disait... Ça nous permet de rajouter ce qu'on veut, et puis c'est surtout là où on est, rajouter, oui, effectivement, mais châtaignes, bien sûr. Je rebondis sur ce que disait Déborah, c'est vrai, effectivement, il y a des gens, on peut le cuire à l'étouffée. C'est quand on dit tapisser une cocotte, ça revient à le cuire à l'étouffée. Mais oui, complètement.
Est-ce qu'on peut le cuire d'une seule façon, sans le pocher, dans une cocotte, avec un bouillon, sans passer par la case? D'abord pochage et ensuite braisage dans une cocotte, mais tout d'un coup, en l'arrosant, de façon peut-être plus ménagère.
Tout à fait, mais dans tous les cas, les feuilles seront blanchies.
Oui.
Dans tous les cas.
Pour ou contre les choux farcis individuels?
Moi, je suis contre rien du tout. Mais non, mais si ça fait plaisir. enfin, moi, enfin, c'est pas. Ouais, voilà.
Tant qu'il y en a deux par personne,
tant qu'il y en a deux par personne, c'est bon. Si c'est des choux individuels, deux par personne, on est bon.
Pour ou contre, le chou farci, sans viande.
Ben pour.
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 Et on en a même une démonstration sur ce plateau.
Ouais, alors j'étais pas forcément pour avant qu'on en parle ensemble.
Parce que c'est moi qui vous ai lancé le défi. Pensons également à ceux qui nous écoutent et qui freinent un peu sur les protéines animales. Là, effectivement, on va le goûter d'ailleurs. Je sais pas par où il est, mais vous avez fait un chou végétal avec une farce qui se tient et surtout une farce extrêmement goûteuse.
Oui, et puis on est allé chercher aussi, on est allé chercher en région. Alors là, vous allez retrouver un chou. C'est à peu près le même procédé.
Ouais.
J'ai gardé le même procédé et on a remplacé la viande par des pois chiches et des lentillons de champagne. Les lentillons de champagne, c'est quelque chose que j'aime énormément et qui sont pas loin.
Donc
et,
les légumineuses, en quelque sorte, vont apporter les protéines.
Voilà. On a toujours la protéine et on est toujours sur quelque chose très nourrissant.
Et ça, je voudrais absolument que Xavier goûte, parce que c'est un grand promoteur justement des légumineuses. Racontez-nous en un mot comment vous procédez sur cette farce, Jean Sévagne.
Ben toujours, on a le même procédé. On va pas revenir sur le montage, mais sur la farce, on a cuit les pois chiches et on les a écrasés grossièrement à la fourchette.
Oui.
Et on les a additionnés toujours à notre mélange de pain, nos restes de pain légèrement imbibés. Et on est venu ajouter des lentilles qu'on a cuites dans le bouillon. Toujours cette concentration, tout cuire ensemble pour avoir une concentration de goût.
Est-ce que Xavier a goûté ?
Oui, moi je trouve ça très bon. Puis effectivement, je suis d'accord pour qu'on fasse un peu revenir les protéines végétales avec les légumineuses. Et puis pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un chou farci ? Enfin, a priori, tout simplement, tout ce qui est de saison. Hein. Parler de châtaigne, pourquoi pas des pommes. Les pommes et choux, ça fait une belle association aussi.
Pommes, choux, boudin.
Ouais, voilà. Ouais. Tout ce qui est de saison, hein, tout simplement, ça va naturellement aller ensemble.
Ça a beaucoup de goût, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous étiez, on peut le dire, Jérôme Gagnès, un peu sceptique à l'idée de manger un chou végétal.
J'étais effectivement un petit peu sceptique. Je le goûte à l'instant, je trouve ça délicieux. J'allais faire une boutade pour vous faire enrager, François Régis. Je dirais, ça, c'est une garniture admirable pour une belle côte de veau au sautoir. Et je dois reconnaître que si je veux être honnête et pas seulement vous faire enrager,
il est irrécupérable celui-ci.
Je le mange très volontiers tout seul. En fait, pour tout vous dire, je trouve ça délicieux. Et je pense que c'est vraiment admirable avec un joli jus de veau un peu concentré. C'est pas une obsession pour la viande, simplement pour le goût. C'est tellement complémentaire, mais c'est fondant. Il y a de la richesse, c'est roboratif, c'est nourrissant, c'est réconfortant. Donc oui, je trouve ça délicieux. Délicieux.
Lentilles, pois chiches et le champignon donnent beaucoup de goût.
Oui, et le champignon donne du goût et la texture. C'est aussi, si on met du champignon de Paris, c'est on vient chercher une texture. C'est pour ça qu'il est là, le champignon de Paris. Et ensuite, je pense vraiment le relever avec. Moi, je suis plutôt parti pris à piment d'Espelette parce que voilà. Mais faut penser, ça nécessite, je pense, dû à la sucrosité du légume, ça demande d'être relevé.
Très bien. Et si le chou farci était une grosse boulette, eh bien, on en débat avec Déborah Dupont.
France Inter. On va déguster.
Y a comme un goût de foulette chez les mots. Sur les ondes.
Simon, tu arrêtes de faire des boulettes, c'est péché.
Comme un goût de boulette sur les ondes. Voilà, c'est Diams qui chantait pour vous. Agneau curry, haddock, chou de Bruxelles, sarrasin et champignons, tofu et noisettes. En tout, 60 recettes de boulettes compilées dans un livre ultra salivant. Les boulettes de nos rêves. Je l'ai ici, à mes côtés, il est superbe avec vraiment un...
Une pyramide, un Jenga de boulettes.
On peut le dire comme ça, une pyramide de boulettes tout à fait différente, photographie de Géraldine Martins aux éditions First. Les boulettes ont du succès, vous les explorez sous toutes leurs facettes, à la fois à la vapeur, mijotées, pochées, frites, végétales ou carnées.
Oui. Alors moi, je vais être honnête, je n'ai pas du tout grandi dans une famille chou farci, typiquement. J'ai dû faire mon premier chou farci il y a 5 ans, et avant ça, je ne connaissais pas du tout. En revanche, j'ai grandi dans une famille boulette, puisque c'était le plat que ma grand-mère me faisait tous les mercredis midi.
Quelle boulette ?
Boulette de viande sauce tomate.
Ah, c'est incroyable ça.
Voilà. Viande. C'était de la viande de bœuf et veau. Puisqu'on ne mangeait pas de porc dans la famille, donc c'était vraiment boulette viande et veau, et c'était une sauce tomate, mais alors sauce tomate faite à base de concentré de tomate qui était dilué avec de l'eau, un peu de moutarde. Mm-hmm. C'était vraiment
cuisine ménagère.
Cuisine hyper ménagère, et donc tous les mercredis, on était trois petits-enfants à aller manger chez elle tous les mercredis midi, et j'étais l'aînée, à chaque fois elle me disait « Tu veux manger quoi la semaine prochaine ?»« Bah des boulettes !» Et donc, mais vraiment tous les mercredis jusqu'à mes 20 ans, j'ai mangé des boulettes de viande à la sauce tomate. Et c'est vrai que c'était pour moi, c'est ma madeleine. Et je suis allée voir les éditions First après les cookies l'année dernière en disant « Bon, parlons sérieusement, moi c'est quand même les boulettes, mon truc. Hein. »
Est-ce que vous avez déjà commis les cookies sur le même principe, c'est-à-dire 60 recettes à droite, à gauche, en explorant toutes les textures, les goûts, les techniques. Et là, vous êtes passé aux boulettes, 60 recettes également avec celle-ci qui...
Alors là, oui,
se démarque clairement.
Pour aujourd'hui, effectivement, j'ai pris une recette qui colle avec le thème, donc ad hoc chou de Bruxelles, qui d'ailleurs, le ad hoc fonctionne très très bien en chou farci.
Avec ses noix fumées.
Avec ses noix fumées.
Bonne idée, c'est vrai. C'est une bonne idée, ça.
Si on veut mettre un peu de foie, on peut même mettre du foie de lotte avec. Ouais. J'ai testé, ça marche très bien.
Pas mal.
Chou farci.
Ad hoc fumé, foie de lotte.
Ad hoc fumé, foie de lotte. Franchement, c'est une petite merveille.
Pour une version marine.
Pour une version marine, exactement.
Il y a un petit peu d'aneth.
Il y a un petit peu d'aneth, oui, je sais très bien que vous n'aimez pas la coriandre, donc je n'allais pas faire une recette avec
vous
de la coriandre aujourd'hui.
Vous êtes très gentil, Déborah, cette boulette est un pur délice.
Ouais, délicieuse et moelleuse.
C'est une boulette alors qui se fait, en fait, tous les ingrédients sont cuits préalablement. Donc vous prenez 250 g de chou de Bruxelles que vous allez émincer finement. En fait, le chou de Bruxelles, on ne pense pas à l'émincer, mais ça fonctionne très bien. On va mettre effectivement à revenir avec du beurre. On va l'étuver, en fait, une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va faire pocher 200 g de ad hoc dans un mélange d'eau et de lait. Donc, ouais. Moi, je le fais partir à froid. Je le monte à petite ébullition. Ensuite, je coupe et je laisse tiédir. On va ensuite...
Ça prend combien de temps, ça ?
Une dizaine de minutes, d'accord. Le temps que les choux cuisent. Vous allez, à côté de ça, prendre 120 g de riz à risotto. Donc, un riz rond type...
Carnaroli.
Carnaroli, voilà. Que vous allez faire cuire. Alors, vous regardez les indications sur le paquet. Ils ont tous une ou deux minutes d'écart. Donc, pareil.
Allez, on va un petit riz de Camargue.
On peut un riz rond qui va se tenir ensuite et qui va coller façon risotto. Donc, ça, c'est pareil. C'est 12, 13, 14 minutes. Et une fois que tout ça est cuit, donc vous mélangez tous ces produits donc dans un grand saladier. Et à ce moment-là, vous faites une béchamel. Mm-hmm. Donc avec du beurre, de la farine, du lait. Mm-hmm. Vous versez sur le mélange donc de riz, de poisson et de choux de Bruxelles. Vous mélangez et là, faut laisser reposer. Donc on assaisonne, on poivre, on met de l'aneth, on met du persil. Je vous conseille de faire attention au sel, car le ad hoc est déjà pas mal salé, donc c'est pas la peine de resaler. Surtout si, comme moi, vous cuisinez au beurre salé, donc on rajoute pas de sel, on met du poivre, éventuellement un peu de piment. J'ai mis un petit peu de piment. Et là, vous laissez reposer. Moi, je l'ai fait prendre toute la nuit au frigidaire, en fait. Et ensuite, vous sortez votre cuillère à glace. Oui, votre cuillère à glace, et vous allez modeler des boulettes avec une cuillère à glace.
C'est pour ça qu'elles sont si régulières.
Elles sont hyper régulières.
Et la béchamel explique leur moelleux.
Exactement. Et ensuite, c'est un quart d'heure, 20 minutes au four à 210 degrés pour que ça croustille légèrement en surface.
Super. Toutes les boulettes de votre livre sont de ce niveau?
Alors, il y a tout style et il y a une vingtaine d'invités.
Wow.
Dont vous, d'ailleurs, François-Régis, vous m'avez confié
les
la
boulettes
de votre grand-mère.
Ma grand-mère de Bastia, ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, c'est un très joli livre. On fait vraiment un voyage inédit dans le monde des boulettes, avec des influences du monde entier, des souvenirs d'enfance. C'est vraiment un superbe livre que je vous recommande chaleureusement. Merci beaucoup, Déborah. En parlant de livre, il y a Xavier Mathias qui a signé Potager d'un frimeur aux éditions Terre Vivante. Un livre drôle, cocasse, pour flamber en société, en culture, cultivant des légumes, puisque le potager est devenu une véritable passion française. On va y consacrer une émission prochaine, cher Xavier, le potager d'un frimeur. L'ami Baraton en disait le plus grand bien, il a bien raison, Jean Sévègne. Et votre femme Roxane au Café des Ministères, en version confinée, avec ce fameux vol au vent, le meilleur de Paris à emporter.
Ah, oh, merci beaucoup.
Rassurez-nous, il est à emporter. La semaine prochaine, Baba, Madeleine, tarte tatin. On explore quelques mythes sucrés avec l'historien Loïc Bienassi et le pâtissier Geoffrey Cagne. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.